Bien, bonsoir à tous. Donc, ce soir, c'est le premier cours de Nouveau Testament pour l'année académique 2017-2018. L'année précédente, j'ai fait un cours toute l'année sur le livre de l'Apocalypse de Saint Jean le théologien. Et pour ce semestre, ce premier semestre, nous allons continuer sur la thématique eschatologique avec cette fois-ci les épîtres pauliniennes. Puis nous reprendrons au deuxième semestre le livre de l'Apocalypse, puisqu'il n'avait pas été terminé dans l'année précédente. Nous nous étions arrêtés au chapitre 14. Et donc nous continuerons. Mais donc il y a une unité entre ce qui a été fait sur le livre de l'Apocalypse, ce qui va être fait sur les parties des épîtres pauliniennes qui concernent le discours eschatologique et la reprise au deuxième semestre du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Alors, d'abord, c'est un cours de niveau 3 du premier cycle, et les étudiants donc, qui sont inscrits en niveau 3 sont priés, pour ce qui concerne le Nouveau Testament bien sûr, de suivre ce cours de niveau 3, mais aussi de prendre le cours de l'année écoulée, de l'année académique écoulée, sur les 13 ou 14 chapitres de l'Apocalypse qui ont fait l'objet du cours précédent. Voilà, donc n'oubliez pas, je l'ai dit hier en présentant au nom de notre doyen, le père Jean Boboc, qui est retenu par la maladie, j'ai présenté donc l'organisation des études, j'ai informé les étudiants inscrits que nous allons mettre en place la plateforme Moodle, et cette plateforme Moodle va nous permettre, à la suite des cours, pas forcément à la suite de chaque cours, mais au moins à deux ou trois reprises dans chaque semestre, de donner des quiz suite à ces cours pour voir si les choses sont bien suivies, bien intégrées, s'il y a des questions qui se posent auxquelles il faut répondre. Donc, sachez que ce sera un outil qui nous permettra de bien voir si vous suivez l'enseignement qui vous est donné et très important, si vous faites bien les lectures recommandées dans la bibliographie et les fiches de lecture qui doivent être faites à partir de ces lectures. Voilà pour le déroulé de l'année en ce qui concerne le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, nous commençons donc avec deux épîtres de saint Paul, la première aux Thessaloniciens et la deuxième aux Thessaloniciens. Ces deux épîtres qui contiennent tout particulièrement, avec le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, et donc avec les épîtres à Timothée, qui contiennent un enseignement eschatologique donné par saint Paul, enseignement eschatologique qui ne procède pas de sa pensée, vous allez le voir, puisque il fonde son enseignement sur une parole du Seigneur. Donc ce n'est pas sa propre pensée qu'il met en avant, mais bien un enseignement basé sur une parole du Seigneur, et il développe à partir de cela, à partir de ce fondement. Donc, ces deux premières épîtres pauliniennes, celle adressée à l'église de Thessalonique, je rappelle que cette église de Thessalonique, le fondateur, c'est saint Paul lui-même, lors de la deuxième mission, lors du deuxième voyage missionnaire, accompagné de Silas et de Timothée. Nous savons que très probablement ces deux épîtres, la première et la deuxième aux Thessaloniciens, sont les premières parmi la série des 13 épîtres pauliniennes. Toutefois, il faut savoir qu'il y a une discussion à propos de la datation de ces épîtres. Certains pensent que l'épître aux Galates précéderait les deux aux Thessaloniciens. Mais la tradition est quasi unanime pour dire que ce sont bien les deux épîtres aux Thessaloniciens qui sont les premières. Donc il n'y a pas lieu de s'étendre sur les questions de datation qui, pour intéressante qu'elle soit, ne concerne pas mon propos dans ce cours du premier semestre. Donc, la proclamation du kérigme, vous le savez tous, la proclamation du kérigme, c'est l'objet des voyages missionnaires des saints apôtres, non seulement de saint Paul, mais aussi de tous les saints apôtres du Seigneur, parce que, ayant reçu le Saint-Esprit, qui est descendu sur eux à la Pentecôte, eh bien, les saints apôtres vont se disperser et vont proclamer la mort et la résurrection du Christ, donc qui est au cœur du kérigme, l'incarnation, la mort, la résurrection du Christ, et le salut que le Fils de Dieu qui est venu parmi nous a apporté aux hommes, sachant que les hommes ne pouvaient par eux-mêmes, selon leur propre force, se libérer du péché. Seul le Christ pouvait casser ce cercle infernal de la naissance pour la mort, à cause de la transgression d'Adam, à cause du fait que nous héritons, par la transgression d'Adam, d'une nature déchue, corruptible, mortelle, et qu'à notre tour, nous transgressons, nous commettons le péché, nous désobéissons au commandement divin. Donc, ce kérigme, c'est l'objet des voyages missionnaires des apôtres. Et nous sommes renseignés sur cette proclamation du kérigme, par quoi ? Eh bien, par le livre des Actes des apôtres. Ce sont les Actes des apôtres, dont l'auteur est l'un des disciples de saint Paul, c'est le saint évangéliste Luc, donc qui nous renseigne sur cette proclamation du kérigme et sur les progrès de la propagation de la foi au Christ par l'annonce de la parole du salut. Alors, de la Phrygie à Troas, par la Galatie du Nord, Paul et ses compagnons avaient l'intention d'aller en Bithynie, nous dit le livre des Actes, au chapitre 16, verset 7b. Mais l'Esprit, et je cite le texte, « l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. » Troas, c'est un port, sur la côte asiatique de donc qui correspond à la côte occidentale de la Turquie actuelle. Et pendant la nuit, ajoute donc au verset 9-10, toujours du chapitre 16 des Actes, il nous est dit « Paul eut une vision. Un Macédonien se tenait debout et le suppliait. Passe en Macédoine, viens à notre secours. Dès qu'il eut cette vision, nous cherchâmes à partir pour la Macédoine, persuadés que Dieu nous appelait à l'évangéliser. » Donc Paul, il ne part pas tout seul, il est accompagné de Silas, de Timothée, et bien qu'il ne se nomme pas, de Luc également, parce que on en a des traces dans le texte quand il dit « nous ». Donc il s'inclut parmi les gens de ce voyage apostolique. Silas, qui est-il ? C'est un homme qui est, nous dit-on, toujours dans le livre des Actes, c'est un préambule que je fais pour nous amener aux épîtres aux Thessaloniciens, mais c'est un préambule nécessaire pour voir dans quel contexte ces épîtres ont été rédigées à la suite de la prédication qu'a fait saint Paul aux Thessaloniciens, et nous allons voir dans quelles conditions. Donc Silas, nous dit le livre des Actes, c'est un homme considéré entre les frères. Acte 15, verset 22. Autant dire que c'est probablement l'un des anciens de l'église de Jérusalem. Hein ? C'est un personnage important. Quand on dit homme considéré entre les frères, ça souligne sa position éminente dans cette église de Jérusalem. Timothée, lui, il est fils d'un grec et d'une mère juive. Et saint Paul va le rencontrer à Lystre, une ville donc d'Asie mineure. Il va le rencontrer à Lystre. Timothée sera converti donc lors du premier voyage missionnaire. Et saint Paul donc a un attachement particulier avec ce jeune Timothée. Il l'appelle « mon enfant bien-aimé ». C'est dans la deuxième épître à Timothée, premier chapitre, verset 2. Et tout ce monde-là va s'embarquer à Troas pour Néapolis. Néapolis, donc, c'est le port qui sert d'ouverture sur la Grèce continentale. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont emprunter ce qu'on appelle la Via Egnatia, qui est une voie romaine qui traverse toute la région et en direction de l'ouest, qui va vers Dyrrachium, l'Adriatique et l'Italie. Vous savez que l'Empire avait un réseau de voies tout à fait remarquable. Il y a même aujourd'hui en France des autoroutes qui suivent d'antiques voies romaines. Hein ? Donc, un réseau de communication qui assurait une grande cohésion à l'Empire et où les nouvelles pouvaient circuler extrêmement vite, où les décrets impériaux parvenaient très vite aux limites de l'Empire, grâce à ces voies romaines. Donc, du port de Néapolis, qui est en fait le port de la ville de Philippe, ils se rendent dans cette ville de Philippe, cette cité donc, qui portait, comme vous le savez tous, hein, le nom du roi macédonien Philippe II, qui était le père d'Alexandre le Grand, et qui était, ça c'est important, une colonie romaine qui avait été grandement peuplée par les légions de Marc-Antoine et d'Auguste. Quand ces légionnaires avaient fini leur service de 25 ans, c'était ça, hein, le temps de service dans les légions romaines, eh bien, ces légionnaires pouvaient s'établir dans différentes régions de l'Empire. On leur donnait des terres, et voilà, ils s'établissaient en ces lieux, comme à Thessalonique, ou plus proche de nous, dans ce qu'on a appelé la Provincia, la Provence maintenant, la Provincia, où bon nombre d'anciens légionnaires, leur service étant accompli, eh bien, recevaient ces terres et s'établissait dans ces régions. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que cette ville de Philippe était administrée à la manière une manière tout à fait semblable à celle de Rome, avec des stratèges et des licteurs, des magistrats. Et le récit de Saint-Luc concernant le passage de Saint-Paul à Philippe, donc avant Thessalonique, Ce récit, en fait, il est très bref. Hein, quand on regarde dans le livre des Actes, il est très bref. Mais il nous donne des indications précieuses néanmoins. Parce que vous savez que Luc, l'évangéliste Luc, disciple de saint Paul, a un souci historique, de l'exactitude historique. Hein. Il le dit d'ailleurs, je le rappelle pour mémoire, au début de son évangile, puisqu'on dit souvent que le livre des Actes des Apôtres, c'est le cinquième évangile, mais l'évangile que nous devons de sa main, à saint Luc, montre qu'il est soucieux de l'exactitude historique. Je rappelle, hein, c'est pour mémoire, mais ça nous aide à comprendre l'un des aspects du livre des Actes. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit et des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires dès le commencement et devenus des ministres de la parole. Et à partir de là, il a interrogé ces gens, beaucoup de ces témoins oculaires, et il a collationné son évangile. Bon. De ce court passage à Philippe, qu'on ne peut pas mesurer très précisément parce qu'on manque de données datables, parce que l'essentiel n'est pas là, de ce court passage à Philippe, il y a trois choses à retenir. Saint Luc, d'abord, fait part de trois événements qui revêtent une grande importance à ses yeux. Alors, quels sont-ils? Est-ce que vous le savez? Bon. Eh bien, il est dit, au chapitre 16, verset 13, « Le jour du sabbat, en dehors des portes sur les bords d'un cours d'eau, donc vous lirez la suite hein, du récit, eh bien, ce jour du sabbat, en dehors des portes sur les bords d'un cours d'eau, se rendent donc saint Paul et ses compagnons de voyage missionnaire. Pourquoi ils se rendent là? Parce que c'est le lieu où les Juifs avaient l'habitude de prier, à Philippe. Hein, on parle de Philippe là. Et ça nous donne une indication, c'est-à-dire qu'à Philippe, il n'y avait pas une synagogue. La communauté juive était visiblement, numériquement, très faible, au point qu'il n'y avait pas 10 chefs de famille pour constituer une synagogue, car telle était la règle. Et qui plus est, là, si on suit toujours le livre des Actes, ce sont des femmes qui sont ici présentes. Il n'y a pas la mention d'hommes auprès du bord du cours d'eau le jour du sabbat. Et parmi ces femmes, il y en a une qui nous dit, acte 16, verset 14-15, une négociante en pourpre de la ville de Thyatire. Hein? Bon, cette négociante, vous savez comment elle s'appelle? Elle s'appelle Lydie ou Lydia, qui prie l'apôtre et ses compagnons de demeurer chez elle. Et cette Lydia est convertie suite à la proclamation du kérigme. Parce que Paul, c'est une grande caractéristique qu'on trouve à Philippe, qu'on va retrouver à Thessalonique, mais qu'on trouve aussi dans les précédents voyages missionnaires, comme on en trouvera la même chose dans le troisième voyage missionnaire, eh bien, il commence toujours par annoncer le Christ mort et ressuscité pour le salut des hommes, à qui? Eh bien, à ceux de son peuple, aux Juifs. Il commence toujours par là. Donc, invariablement, quand il arrive dans une cité, ben, il va à la synagogue. Il veut prêcher à ceux de son peuple. Donc, il va à la synagogue, là, à Philippe, il va là où se réunissaient les quelques Juifs qui étaient présents dans la ville, qui n'avaient pas encore la possibilité de constituer une synagogue, Mais c'est toujours ainsi que saint Paul, apôtre, procède. Ça nous donne aussi quelque chose qui est intéressant et qui, pour la mission dans les temps que nous vivons, est aussi intéressant. C'est-à-dire que lorsque l'apôtre des nations annonce l'Évangile, annonce l'heureuse annonce, ou la bonne nouvelle, c'est ce que signifie le terme Évangile, eh bien, on voit qu'il y a une ou plusieurs personnes qui se convertissent, et leur maison devient une domus ecclesiae, en quelque sorte, qui va accueillir pour la prière liturgique, qui va accueillir ceux qui vont se joindre au Christ progressivement, parce que les communautés vont grandir, la foi, vous savez, la foi dans le Christ va se répandre très rapidement dans l'Empire. Très rapidement. Il y a des auteurs païens qui en rendent compte, hein, j'en avais parlé dans les années passées, des auteurs païens qui en rendent compte, qui disent que une nouvelle et détestable superstition s'est répandue un peu partout dans le grand corps qu'est l'Empire romain, donc la nouvelle et détestable superstition dont ils font mention, bien sûr, c'est la foi en Jésus-Christ. Donc cette foi va se répandre très rapidement, et dans un premier temps, enfin dans un premier temps qui va durer plusieurs siècles, eh bien, les chrétiens se réunissent dans les maisons. Il y a toujours une maison, en général, d'une personne assez importante qui devient une domus ecclesiae dans laquelle on se réunit, où on partage la prière et l'agape, où c'est un lieu où la communauté chrétienne qui au départ est composée de quelques personnes et puis qui va grossir progressivement se réunit, parce que ce n'est que plus tard que des lieux de culte et en particulier au moins 2 siècles et demi plus tard que des lieux de culte vont se développer, puisque vous savez que l'une des grandes dernières persécutions, la persécution de Dioclétien, eh bien une des plus sévères persécutions, celle de Dioclétien d'ailleurs, avait pour but de détruire les lieux de culte chrétiens. Là, ce n'était plus les domus ecclésiae, c'était des églises dans lesquelles se réunissaient, le bâtiment église dans lequel se réunissaient les fidèles. Donc de détruire ces bâtiments et également donc, de brûler les livres, l'écriture sainte, donc, hein, les épîtres des apôtres du Seigneur, les évangiles, et aussi de détruire les vases sacrés qui servaient à la célébration des saints mystères. Mais là, on n'en est pas encore là, bien sûr, lors de la deuxième mission de saint Paul, qui va à Thessalonique, et là, il est à Philippe. Ça, c'est le premier événement. Le deuxième événement, c'est l'épisode de la guérison. De la guérison qu'on trouve dans les Actes, là toujours au chapitre 16, versets 16 à 18, la guérison de la servante, l'esclave, donc qui est possédée par l'esprit, un esprit mauvais, mais qui faisait que cette esclave prédisait l'avenir. Elle était possédée, mais elle prédisait l'avenir. Et comme elle était dans les liens de l'esclavage avec un maître puissant dans la ville, elle rapportait évidemment beaucoup d'argent, parce qu'en ce temps-là, les gens qui prédisaient l'avenir gagnaient ou rapportaient beaucoup d'argent à leur maître. Vous me direz, ça n'a guère changé au travers des siècles, et vous aurez raison. Mais voilà. Donc, saint Paul va chasser l'esprit mauvais dans cet esclave, et du coup, elle n'avait plus rien rapporté à ses maîtres, Et Paul et ses compagnons vont être emprisonnés. Et c'est l'événement, donc le troisième événement, de la délivrance tout à fait providentielle de Paul, de Silas, qui avait été emprisonné, bien sûr, suite à une émeute provoquée par le maître de cet esclave, délivré par saint Paul d'un esprit mauvais. Et alors, ce qui se passe, c'est que, sur l'ordre des stratèges, donc les magistrats de la ville, ils sont battus de verge, ils sont jetés en prison. Et alors qu'ils étaient en prière, ça c'est toujours le livre des Actes qui nous l'indique, suite à un violent tremblement de terre, les portes de la prison s'ouvrent, et Paul et Silas sont miraculeusement délivrés de leurs liens, ainsi d'ailleurs que les autres prisonniers, nous dit le récit des Actes. Évidemment, le geôlier qui était responsable de cette prison est prêt à se donner la mort, parce qu'il se sentait frappé d'indignité. Vous vous rendez compte, ces prisonniers sont dehors, tous, et donc il faillit à sa mission, il est prêt à se donner la mort. Et le geôlier est rassuré, nous dit saint Luc dans les Actes, il est rassuré par l'apôtre, et il reçoit l'annonce du salut à son tour, il est baptisé, et il croit au Seigneur. Alors tout ça, bien sûr, c'est dans un récit extrêmement ramassé. On va voir pourquoi, d'ailleurs. Mais voilà, saint Luc va à l'essentiel. Et il y a une raison, je vais y venir. Il y a une raison pour laquelle saint Luc va à l'essentiel. C'est-à-dire qu'il a à la fois le souci de l'historien, mais en même temps, il ne s'attarde pas sur la description chronologique des événements. Il les mentionne, mais sans s'y attarder, parce que son intention est ailleurs. Paul et Silas, je rappelle, Paul et Silas sont citoyens romains. Et il y a une loi qui s'appelle la Lex Porcia, qui protège les citoyens romains des sévices que les magistrats peuvent imposé aux uns et aux autres. Et donc, les magistrats n'avaient pas le droit de faire fouetter de verge Paul et Silas. Donc, ils veulent s'en débarrasser au plus vite et ils les chassent de Philippe. Là, on a une indication, si vous voulez, à travers ces trois événements, on a une indication que l'on va retrouver d'ailleurs dans d'autres circonstances dans le livre des Actes, c'est que, en définitive, tout ce que les hommes peuvent faire de mauvais pour arrêter la propagation de l'Évangile, la propagation de la parole de vie, la parole de Dieu, eh bien, est vain, parce que la malice des hommes, en définitive, n'a pas prise sur la parole de Dieu. Et cette parole divine, elle se répand malgré cette malice des hommes. C'est en tout cas ce que veut nous suggérer le saint évangéliste Luc. Donc après, c'était des marcheurs, nos apôtres, beaucoup. Ils se déplacent en bateau, peut-être aussi par d'autres moyens, mais ils marchent beaucoup. Faut bien voir. Et ils marchent aussi dans des régions qui sont parfois très inhospitalières, du point de vue naturel, sans parler des hommes, mais du point de vue naturel. Donc voilà, ils vont marcher environ 160 km, ils vont passer par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivent à Thessalonique. Thessalonique qui est une capitale administrative en ce temps-là, et commerciale, capitale administrative de la province de Macédoine, province romaine de Macédoine, laquelle a été conquise aux environs de 148-146 avant Jésus-Christ. Le géographe grec Strabon nous dit que ce n'est pas une ville extrêmement ancienne, puisque elle remonterait environ, bon, on ne peut pas dater à l'année près, sa fondation remonterait environ à l'an 315 avant Jésus-Christ. Bon, donc c'est pas tout à fait récent, mais c'est pas très éloigné dans le temps non plus. Et une ville qui est fondée par un général d'Alexandre le Grand, qui se nomme Cassandre, ça vous connaissez tous ça, lequel Cassandre donne à la ville le nom de son épouse. C'est une ville qui est très cosmopolite. Et c'est remarquable que l'Évangile prenne très vite, lors des voyages missionnaires, dans bon nombre de villes très cosmopolites. Antioche aussi est une ville très cosmopolite. Smyrne aussi. Bon. Philippe dans une... vraiment une moindre mesure. Mais Thessalonique, en tant que capitale de la province romaine de Macédoine, est une ville très cosmopolite. Elle est, de par son emplacement géographique, au fond du golfe de Thermaïque, donc au bord de la mer Égée, au fond du golfe de Thermaïque, elle a un emplacement privilégié, c'est vraiment un carrefour stratégique entre l'Est et l'Ouest. Et c'est une ville d'ailleurs qui a un destin, tout au long de l'histoire, qui a un destin tout à fait particulier, puisque déjà les capitales administratives et commerciales de la province romaine de Macédoine, avant le Christ, elle sera la deuxième ville de l'Empire romain d'Orient, la première étant Constantinople, mais elle gardera ce statut de deuxième ville sous l'Empire ottoman lui-même, et jusqu'à la fin de l'Empire ottoman, ça sera également la deuxième ville de cet empire qui succédera à l'Empire romain d'Orient suite à la conquête turque. Alors, cette ville, comme bon nombre d'autres villes qui recevront la visite des apôtres, elle est très cosmopolite. Alors, le cosmopolitisme de ces villes veut dire qu'il y a une multitude de cultes qui sont pratiqués, les dieux romains, les dieux orientaux de toutes sortes, des cultes à mystère, des philosophes à prétention spirituelle. Je le dis sans aucun mépris parce que ça existe. Bon, bien sûr, il y a un grand syncrétisme philosophique dans cette période de l'hellénisme, mais il y a aussi, chez bon nombre de ces philosophes, des recherches spirituelles qui ne se traduisent pas de bonne manière, mais elles sont réelles, ces recherches, pour autant. D'ailleurs, bon nombre d'adeptes de ces courants philosophiques recevront le baptême. Ce qui ultérieurement d'ailleurs aussi posera problème, parce que ceux qui auront reçu le baptême en Christ viendront dans l'Église aussi avec tout leur bagage antérieur, et ce bagage philosophique antérieur sera souvent source d'hérésie. Parce que je rappelle que l'une des grandes caractéristiques de l'hérésie, elles ont tout un fond commun, les hérésies, c'est toujours une révolte de la raison humaine face au mystère de Dieu. Toujours. Parce que là, il n'est pas donné à la raison humaine d'enfermer dans sa logique le mystère de Dieu, de circonscrire le mystère de Dieu dans sa logique, et les grandes hérésies de l'Antiquité chrétienne, elles ont cette caractéristique commune d'une révolte de la raison en face du mystère. Parce que ce n'est pas le logos qui pose problème, mais ce sont, comme on dit, les logismos, les raisonnements dans lesquels la raison se perd. Voilà. Alors, cette caractéristique cosmopolite de Thessalonique a cette caractéristique, il faut lui adjoindre une autre caractéristique, c'est qu'elle a une communauté juive importante et influente. Et là encore, d'ailleurs, ça sera tout au long de l'histoire de cette ville, au moins jusqu'à des temps récents, jusqu'à la libération de la ville du joug turc en 1912, peut-être un peu après encore, cette ville gardera une communauté juive importante et influente, non seulement au moment où Paul et ses compagnons arrivent pour annoncer l'évangile du Christ, mais bien au-delà, puisque vous savez que quand les Juifs ont été chassés par les rois catholiques d'Espagne à partir de 1492, le sultan ottoman les a accueillis dans l'empire, dans son empire, et bon nombre de Juifs ont établi leur résidence à Thessalonique, ce qui fait qu'elle aura toujours une communauté juive très importante qui atteindra, je ne me souviens plus exactement du pourcentage, mais je crois que c'est au-delà même de 30 à 35% de la population de sa ville à son apogée. Donc cette communauté représentera une partie très importante de cette cité. Donc ils arrivent, l'apôtre et ses compagnons, en ville, et qu'est-ce qu'ils font? Comme à Philippe, comme à Antioche, comme en d'autres lieux, ils vont à la synagogue. Parce que l'annonce du kérigme, Paul commence toujours par ses frères de sang, les Hébreux. Il est dit d'ailleurs, en acte 17, verset 2-4, « Suivant son habitude, Paul alla les y trouver, donc il s'agit des Juifs. Trois sabbats de suite, il discuta avec eux d'après les Écritures. Il les leur expliquait, établissant que le Messie devait souffrir et ressusciter des morts. Et ce Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Messie. Quelques-uns d'entre eux se laissèrent convaincre et furent gagnés à Paul et à Silas, ainsi qu'une multitude d'adorateurs de Dieu et de Grecs, et bon nombre de dames de qualité, nous dit le récit des Actes. » Alors, on peut remarquer tout de suite que la prédication de Paul, elle est reçue diversement. Quelques-uns, quand le récit des Actes parle de la prédication à la synagogue de Thessalonique sur une durée de trois sabbats, il semble bien qu'il n'y ait pas beaucoup des Juifs qui aient ouvert leur cœur au message évangélique. Qu'est-ce, quelques-uns, parmi les Juifs, d'une communauté pourtant nombreuse et influente, s'ouvre, par la grâce de Dieu, s'ouvre à la prédication de l'Évangile, reconnaissent cette parole comme vérité venue de Dieu et attestent donc la vérité de cette parole et se joignent à Paul et ses compagnons. Là, c'est un nombre réduit de Juifs. Mais vous savez que dans ce temps-là, le judaïsme de ce temps-là est un judaïsme qui est prosélyte. Le judaïsme ultérieur, qui est le judaïsme rabbinique, ne sera plus prosélyte. Mais celui-là le sera, le judaïsme de ce temps-là, comme d'ailleurs le judaïsme à Alexandrie, avec Philon, la grande figure du judaïsme alexandrin. On a affaire à un judaïsme prosélyte, donc qui attire des païens. Et ce qu'on appelle les prosélytes, ce sont ceux qui s'adjoignent au peuple juif et qui reçoivent la circoncision. Donc ils sont intégrés dans le peuple juif, bien qu'ils ne sont pas de naissance juif, mais ils entrent dans le peuple juif par la circoncision. Ils entrent dans l'alliance mosaïque par la circoncision. Et puis il y a encore une autre catégorie qu'on appelle les craignants Dieu. Donc les craignants Dieu, Ce sont les Grecs là qui sont aussi désignés, une partie de ces Grecs qui est désignée, c'est-à-dire que eux, ils s'approchent de la foi mosaïque, mais ils n'ont pas encore été intégrés dans le peuple de la première alliance, puisqu'ils n'ont pas reçu la circoncision. Et la prédication de Paul va avoir un impact sur ces deux catégories, donc les prosélytes et les craignants Dieu. Alors, c'est même un succès, si l'on en croit le livre des Actes, il n'y a pas de raison d'en douter, puisque ce succès, nous dit le chapitre 17, verset 5 des Actes, va provoquer la jalousie des Juifs, donc des chefs de la synagogue. Je rappelle d'ailleurs que si vous connaissez Thessalonique, c'est sur les ruines de cette synagogue qu'a été construite la grande et belle église Agios Pavlos, qui est sur les hauteurs de la ville. Et le texte ajoute des femmes éminentes, protones, donc des dames qui ont rang dans la société. Et bien sûr, c'est une note importante car elle laisse entendre que la composition de la première église de Thessalonique, eh bien, elle va être très diverse. Ce n'est pas seulement comme ce fut le cas en d'autres lieux, une catégorie sociale déterminée, souvent des gens très humbles, voire des esclaves. Bon, là, il y a un mélange, visiblement. Il y a des dames de la haute société. Les dames éminentes, ce sont des dames de la haute société. Et la présence de ces femmes éminentes, donc influentes, dans la société de cette ville, ben ça va quand même beaucoup aider à la propagation de l'Évangile et ça va constituer une aide précieuse pour saint Paul et ses compagnons. Donc nous connaissons la suite, bien que saint Luc nous en informe de façon très concise. La prédication de Paul rencontre tout de suite un grand succès, suscite la jalousie des chefs de la synagogue, qui, nous dit le verset 5 du chapitre 17, ramassèrent sur la place quelques mauvais sujets, provoquèrent des attroupements et répandirent le tumulte dans la ville. Ces émeutiers donc vont faire le siège de la maison de Jason, un nommé Jason. Jason, c'est un converti important. qui est nommé à côté d'autres. Ils font le siège de la maison de Jason parce qu'ils espèrent trouver Paul et Silas pour s'en emparer, bien sûr. Alors il y a d'autres convertis qui sont nommés, les convertis de la première heure qui sont nommés dans les Actes. Parmi ceux-ci, ceux qui se sont joints au Christ suite à la prédication de saint Paul, il y a Gaius, Actes 19, 29, Aristarque et second, Actes 20, verset 4. Et Jason, lui, c'est un juif. Il fait partie de ces juifs qui, ayant entendu la proclamation de l'Évangile, se sont joints au Christ. Jason, hein, c'est pas tout à fait le décalque, mais c'est la traduction en grec de Yeshua. Du Yeshua hébreu. C'est le nom du Christ en hébreu. Yeshua, c'est Jésus, et c'est aussi le nom de Josué. Et c'est ce Jason, qui accueillit Paul et Silas dans sa maison. Là encore, si vous voulez, un embryon d'église, une domus ecclésiae dans laquelle ceux qui se joignent au Christ vont se rassembler pour la louange du Seigneur. Les émeutiers, ils trouvent pas Paul et Silas, et nous dit le livre des Actes, Jason et quelques frères sont traduits devant les polytarques, polytarques, donc une autre catégorie de magistrats de la ville, au motif, selon les chefs des Juifs, que tous ces gens-là, et je cite Acte 17, verset 7b, que tous ces gens-là contreviennent aux édits de César en affirmant qu'il y a un autre roi, Jésus. Alors là, c'est intéressant aussi, c'est de voir que vous vous souvenez de au prétoire de la scène au prétoire de Pilate pendant la passion du Seigneur, pendant le procès inique qui est fait au maître de la vie, eh bien Pilate dit « Je n'ai rien contre lui » en désignant Jésus, et dit « Mais je vais le relâcher, je n'ai rien contre lui. » Et la foule qui est assemblée et excitée par les chefs des Juifs, par les grands prêtres, bon, eh bien, hurle « Crucifie-le, crucifie-le. » Et comme Pilate semble ne pas écouter, il dit « Mais crucifierai-je votre roi ?» Et la foule dit, là aussi excitée par les grands prêtres, « Nous n'avons d'autre roi que César. » C'est intéressant de mettre le récit des Actes, là, ce qui se passe à Thessalonique, en résonance avec ce qui se passe au prétoire, au moment de la Passion, parce que c'est la même réaction, finalement. Ces chefs de la synagogue, eh bien, ils veulent obtenir la condamnation de Paul, de Silas, de Jason et des autres, au motif que, eh bien, eux prétendent qu'il y a un autre roi qui se nomme Jésus. Donc, c'est une manière de dire que ce sont des séditieux, puisque eux, comme au prétoire de Pilate, ils n'ont de roi que le César, l'empereur de Rome. C'est vraiment le comble de l'hypocrisie. Alors, Jason et ses compagnons sont, parce que oui, il y a les compagnons de Jason qui sont retenus, et ils sont libérés sur une caution, et là, aussitôt, nous dit le livre des Actes, ils font partir Saint Paul, parce que Saint Paul est vraiment menacé, ils le font sortir de nuit de Thessalonique. Paul et Silas s'en vont pour une cité qui est en Thessalie, une cité qui s'appelle Bérée. Et là, nous dit le livre des Actes, l'accueil est meilleur. Je cite, « Or ceux-ci avaient l'âme plus noble que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec le plus grand empressement. Chaque jour, ils examinaient les Écritures pour voir si tout était exact. Beaucoup d'entre eux embrassèrent la foi, de même que parmi les Grecs, des femmes considérées, donc des femmes de haut rang, et bon nombre d'hommes. » Acte 17, versets 11 à 12. Mais là encore, ils sont poursuivis. Les Juifs de Thessalonique entendent parler de la prédication aux Juifs de Bérée et poursuivent Paul et ses compagnons de leur vindicte, de telle sorte que, eh bien, Paul est obligé de partir également en toute hâte vers la mer pour se rendre à Athènes. Et là, évidemment, on verra par la suite, c'est le seul et unique séjour de Paul à Thessalonique, en fait. Bien qu'il ait eu un désir ardent, vous allez voir dans la suite, il a eu un désir ardent de retrouver ses chers Thessaloniciens, eh bien, la chose lui a été impossible. Alors, évidemment, en lisant Saint-Luc, on a l'impression que, dans une moindre mesure, certes, mais que le séjour à Thessalonique a été bref. Celui de Philippe l'a été, ça c'est sûr, même très bref. Mais celui de Thessalonique, on a aussi l'impression d'une brièveté d'un séjour. Bon. On ignore la durée de ce séjour à Thessalonique, mais on a quand même des indices qui nous permettent de penser que il n'a pas été si bref que ça, ce séjour, et ça se lit en filigrane aussi à travers nos deux épîtres en question qui font l'objet de notre étude. Alors, quelle est l'explication du caractère très ramassé de ce récit de Saint-Luc ? Eh bien, j'ai dit tout à l'heure, bien sûr, qu'il y a le souci de l'exactitude historique. J'ai cité le prologue de l'évangile de Saint-Luc qui montre ce souci, le souci de l'évangéliste de bien se renseigner auprès des témoins oculaires des paroles du Christ et de tout ce que le Christ a accompli. Hein. Et là aussi, on a cette impression de brièveté parce que Saint-Luc va à l'essentiel. Alors, vous savez qu'on a appelé souvent le livre des Actes le livre du Saint-Esprit. Ce sont les actes du Saint-Esprit par le ministère des apôtres, et le Saint-Esprit y poursuit un objectif, c'est l'annonce de la parole de vie à travers tout l'Empire. Le but final des voyages missionnaires, bien sûr, c'est l'annonce du kérigme évangélique, mais aussi ce kérigme, il part de Jérusalem et il va aller, à l'issue du dernier voyage missionnaire, il va aller au cœur de l'Empire, au cœur de l'œcuménée romaine, donc dans la ville de Rome elle-même. Hein. Et c'est pour ça que Saint-Luc ne s'attarde pas sur tout un tas de détails, il va à l'essentiel, parce qu'il veut montrer, justement, à travers ses voyages missionnaires, comment la parole de vie s'est propagée de Jérusalem jusqu'au cœur même de ce grand empire romain. Mais on a des indices dans la première épître et dans l'épître aux Philippiens, des indices qui nous laissent à penser que le séjour a quand même duré un peu plus que l'impression de rapidité que nous laisse la concision du récit. D'abord, on va le voir, dans la première épître aux Thessaloniciens, l'apôtre donne des instructions. Il donne un certain nombre d'instructions dans le but d'édifier cette nouvelle communauté qui a besoin d'être... sont des enfants dans la foi. Ce sont des enfants pleins d'enthousiasme, pleins de vigueur, d'ailleurs qui vont susciter l'admiration et l'amour de l'apôtre. C'est une communauté qu'il a très profondément aimée parce qu'elle a tenu bon malgré la persécution dont elle va être l'objet tout de suite. Elle va être l'objet de la vindicte des chefs des Juifs et puis d'autres catégories encore, des magistrats de la ville. Bon, et elle va tenir bon, bien que sa foi est encore toute jeune. Et Paul, donc, va instruire cette communauté, ce qui laisse quand même à penser que le séjour n'a pas été si bref que l'impression qu'on peut en avoir en lisant le livre des Actes. Parce que ce qui va être redit dans les deux épîtres aux Thessaloniciens, c'est une reprise de parole de ce qui a été annoncé oralement par l'apôtre Paul. D'ailleurs, il le dit en toutes lettres, très explicitement. « Je vous ai dit que, rappelez-vous ce que je vous ai dit. » Donc, il répète par écrit, par une épître, donc ce qu'il a déjà dit, tout en apportant dans ses épîtres des précisions. Nous verrons pourquoi, parce qu'à un moment donné, il envoie Timothée de retourner à Thessalonique, et Timothée va revenir et retrouver l'apôtre à Corinthe, et avec des questions qui sont posées par les fidèles de Thessalonique. Donc il va préciser un certain nombre de choses, mais en disant « Rappelez-vous ce que je vous ai dit, donc de vive voix. » Donc des instructions dans le but d'édifier la communauté. Édifier sur quoi ? Sur la sainteté de la vie, sur la sanctification. Sanctification, c'est tout le mouvement de la déification à laquelle nous sommes appelés en tant que fils et filles du Christ par le Saint-Baptême. Et il le dit d'ailleurs dans la première épître, chapitre 4, verset 3, « Et voici quelle est la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. » Des instructions aussi sur le combat contre les passions, sur la pratique de l'amour fraternel. Bon, autant de thèmes, parce que si avec la tradition nous confessons que c'est ces deux épîtres qui sont les premières des 13 de Saint Paul, eh bien, on va déjà voir là des thèmes qui seront récurrents dans toutes les épîtres ultérieures. Combattre contre les déviances intérieures, les passions, pratique de l'amour fraternel, œuvrer à la sanctification avec l'aide de Dieu, en étant ouvert à l'action du Saint-Esprit et en mettant sa volonté, non pas sa volonté propre en mouvement, mais en se purifiant intérieurement et en mettant sa volonté dans celle du Seigneur. Tout ça, c'est des thèmes qu'on va retrouver tout au long des épîtres de Paul et que nous trouvons là pour la première fois. Un enseignement sur les fins dernières, donc sur les eschatas, tout un enseignement eschatologique qui, vous allez le voir, est très important. Enfin, nous allons le voir au cours de ce semestre, est très important et est en résonance non seulement avec toute la littérature eschatologique de l'Ancien Testament, notamment avec pour ne citer que lui, dans un premier temps, la prophétie de Daniel, mais aussi avec Isaïe, et on va voir les correspondances qu'il y a entre les passages eschatologiques que nous trouvons, par exemple, dans les trois évangiles synoptiques, et que nous trouvons aussi chez saint Jean et dans l'Apocalypse. Tout ça est en résonance et en unité profonde, parce que cet enseignement ne procède pas de la pensée de l'apôtre, mais d'une parole du Seigneur. Nous allons le voir, il le dit explicitement. Ceci vient d'une parole du Seigneur. Et Paul fait toujours la distinction dans ses épîtres entre ce qui vient de lui, dans son enseignement, et ce qui vient du Seigneur. Il dit, ceci, cette parole-là, c'est du Seigneur. Celle-ci, c'est moi qui le dis, c'est pas le Seigneur. Vous voyez ? Donc, il a un souci très exact de la vérité, de telle sorte qu'on ne peut pas confondre ce qui est de l'ordre de la parole du Seigneur et ce qu'il peut ajouter lui, fidèle disciple du Seigneur. Parce qu'il identifie toujours très clairement les choses. Alors, les exigences qui sont liées à la vie de communion entre les frères dans l'Église aussi, encore un ensemble d'instructions qui sont données, avec quelque chose de très important que nous connaissons, nous répétons souvent, c'est l'injonction, c'est l'impératif, prier sans cesse, prier sans cesse. Cette injonction, cet impératif qui est repris dans toute la tradition ascétique de l'Église orthodoxe du Christ, où on voit, et là je pense à l'une des conférences de Saint Jean Cassien, où Saint Jean Cassien et son disciple Germain, donc visitant les monastères du désert d'Égypte, visitant, mais pas comme ça en touriste pendant 24 heures, hein, visitant pour recevoir l'enseignement des grands ascètes du désert d'Égypte et en vivre, parce qu'ils passent du temps dans ces monastères. Donc l'enseignement, il passe en eux et il se traduit en acte, en vie. Hein, comme d'ailleurs Ça doit être la règle pour nous, sinon les choses sont au mieux boiteuses et n'ont pas grande signification. Si ça ne passe pas dans la vie chrétienne réelle, bon, il ne se passe pas grand-chose. Bon, et donc Saint Jean Cassien, ou je crois que c'est son compagnon à ce moment-là qui pose la question, si mes souvenirs sont exacts, je peux me tromper sur le père du désert en question, mais vous savez qu'il y a un certain nombre de conférences dans l'œuvre de Cassien. Je pense que c'est avec Abba Isaïe et nos deux compères reprennent justement cette injonction de saint Paul, prier sans cesse, et posent la question au saint moine Ascète et lui dit, mais père, comment on peut faire quand on est au monastère, prier sans cesse, mais comment est-ce possible? Si j'accueille des visiteurs, j'ai le devoir d'hospitalité, donc je dois l'accueillir, je dois faire mon obédience dans le monastère, et comment je peux prier sans cesse? Donc c'est quelque chose qui revient sans cesse dans l'enseignement des pères spirituels de la Sainte Église orthodoxe du Christ depuis les apôtres jusqu'à aujourd'hui, puisque les pères de l'Église sont de tous les siècles, comme nous le savons. Priez sans cesse, soyez dans l'action de grâce, un thème qui sera repris avec force par Saint Jean Chrysostome. Saint Jean Chrysostome, vous savez que Saint Jean Chrysostome est très attaché à Saint Paul. Il y a une très belle icône qui montre Saint Jean Chrysostome en train d'écrire. On lui doit une très grande quantité d'écrits. Bon, ben, nous avons ces homélies qui sont très nombreuses, et puis nous avons des traités, nous avons des discours du Chrysostome, et cette icône, elle est magnifique. Moi, je l'aime beaucoup personnellement parce que on voit, c'est saint Paul qui est derrière Chrysostome et qui lui dit, comme s'il lui disait ce qu'il faut écrire, il guide en quelque sorte la main de Chrysostome. Et là, on voit justement cette transmission de la tradition apostolique. Les pères, ils reçoivent la tradition des apôtres, ils en vivent et ils la transmettent. Et là, c'est un très bel exemple de cette transmission. Outre le fait que, bon, on connaît, historiquement parlant, l'attachement de Chrysostome à l'apôtre Paul, mais en même temps, cette icône nous donne une très belle image de ce qu'est cette transmission. Comme Chrysostome est inspiré par Paul. Il n'écrit pas sous la dictée, mais il est inspiré par Paul. C'est Paul, apôtre de Jésus-Christ, qui l'inspire dans ce qu'il doit dire aux fidèles de son Église, dans ce qu'il doit écrire. Eh bien, Chrysostome, justement, a de magnifiques développements sur la prière d'action de grâce. Il dit qu'il faut rendre grâce à Dieu pour tout, et nous savons que dans les derniers instants de sa vie terrestre, il a dit « Gloire à Dieu pour tout ». C'est une expression qui était très souvent sur ses lèvres jusqu'à l'extrémité de sa vie. « Gloire à Dieu pour tout ». Donc, saint Paul, ça c'est un thème qui revient sans cesse dans ses épîtres. Et en général, ses épîtres, d'ailleurs, commencent à peu près toutes par une action de grâce. Paul rend grâce. Et là, il rend grâce au début de la première aux Thessaloniciens, comme au début de la deuxième d'ailleurs, mais particulièrement dans la première. Il rend grâce à Dieu pour cette jeune église bien-aimée qu'il a fondée et tous les beaux fruits qu'elle produit par l'action de l'Esprit et par la persévérance dans la foi des membres de cette église. Voilà, donc, priez sans cesse, soyez dans l'action de grâce, et il ajoute, le saint apôtre Paul, donc aux premières aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, « C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. » Donc, ça procède, ça procède de la révélation. Ça procède pas, ce ne sont pas des idées qui sortent de la tête de Paul, ça procède d'une parole du Seigneur. Il invoque là la volonté de Dieu sur vous en parlant aux Thessaloniciens. C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. Alors, deux autres éléments sont à ajouter. On sait que Paul, comme les autres apôtres fondateurs d'Église, donc va poursuivre ses voyages missionnaires. Et donc, à un moment donné, humainement parlant, il va quitter cette Église qu'il a fondée, mais il la quitte en établissant des anciens qui sont chargés de veiller sur cette Église, de la conduire, de la guider, de la maintenir dans la foi, dans le dépôt sacré de la foi, dans l'Évangile. Et donc ces anciens ont un rôle de direction dans ces églises, puisqu'ils sont chargés de la gouverner et de la guider dans l'application des commandements du Seigneur. Et c'est pourquoi il demande d'ailleurs dans cette première aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 12-13, frères, il leur demande, frères, je vous demande, je rajoute là, je vous demande, puisque c'est pas dans la citation, il leur demande d'avoir de la considération pour ceux qui se donnent de la peine au milieu de vous, qui sont à votre tête dans le Seigneur, et qui vous reprennent, estimez-les avec une extrême charité en raison de leur travail, soyez en paix entre vous. Donc 1 Thessaloniciens 5, 12, 13. Alors ici évidemment, il y a dans le texte grec, il n'y a pas la mention du nom presbytéros, hein, donc ancien, mais il est sous-entendu mention de presbytéros, elle sera explicite dans la première épître à Timothée, chapitre 5, verset 17. Mais en tout cas, les anciens dont il s'agit ici, c'est bien de ça, c'est-à-dire que ce sont des hommes à qui Paul a imposé les mains et qui sont les surveillants de cette église, et donc ça donnera nos évêques épiscopes. C'est le surveillant, c'est celui qui a la charge d'une église locale, hein, et qui est l'icône du Christ dans son église, et qui doit l'enseigner, la guider. Voilà, c'est en lien direct avec ces anciens dont nous parle la première épître à Timothée, et la première épître aux Thessaloniciens également. Mais dans celle de Timothée, presbytéros est nommé. Et puis un autre indice de cette présence qui est quand même plus long que l'impression que donne la lecture du livre des Actes, c'est que Paul remercie, ça c'est dans l'épître aux Philippiens au chapitre 4, remercie pour les secours reçus. Vous qui, dès mon séjour à Thessalonique, m'avez envoyé, et par deux fois, ce dont j'avais besoin. Ce n'est pas que je recherche les dons, ce que je recherche est le bénéfice qui s'augmente à votre actif. Philippiens 4, versets 16-17. Donc, cette église qu'il a fondée dans cette capitale commerciale et administrative de la province romaine de Macédoine, elle est, c'est touchant d'ailleurs, hein, quand on lit les tout premiers chapitres de la première aux Thessaloniciens, elle est l'objet de l'affection, on peut même parler de la tendresse de l'apôtre. Il évoque tour à tour des sentiments, il s'épanche en quelque sorte, il évoque les sentiments profonds qu'il a pour ces vaillants nouveaux fidèles du Christ, qui sont tout de suite l'objet de persécutions, mais qui persévèrent dans la foi, qui tiennent bon, en quelque sorte. Et il dit qu'il éprouve les sentiments d'une mère pour ses enfants, et en même temps, il a la fermeté d'un père pour ses mêmes enfants. Voilà, je cite, donc 1 Thessaloniciens 2, 7b, 8, « Comme une mère nourrit ses enfants et prend soin d'eux, telle était notre tendresse pour vous, que nous aurions voulu vous livrer en même temps que l'Évangile de Dieu, notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. » Vous voyez, c'est pas rien. Nous aurions voulu vous livrer en même temps que l'Évangile de Dieu, notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Mais aussi, il parle de la fermeté, sa fermeté de père. Comme un père pour ses enfants, vous le savez, nous vous avons chacun de vous exhorté, encouragé, adjuré, exhorté, encouragé, adjuré, de mener une vie digne du Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. 1 Thessaloniciens 2, 11. Alors, du fait de son départ un peu précipité après, pour fuir la vindicte des Juifs, hein, on a vu que les fidèles vont le faire partir de nuit pour échapper à cette vindicte. Du fait de cet éloignement, bien qu'il sache par Timothée, qui est à sa demande revenu à Thessalonique, que la semence évangélique avait produit de bons fruits, malgré la persécution, et qu'il connaisse la renommée de cette communauté qui lui est particulièrement chère, eh bien, il ne peut pas cacher son inquiétude. Et nous allons voir pourquoi. Mais il est conscient de la renommée. Je vous ai dit, hein, l'Évangile se répand très très vite et l'Église de Thessalonique va acquérir une grande renommée en Macédoine et en Achaïe, ainsi que c'est dit dans la première aux Thessaloniciens. Ainsi, vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de Macédoine et d'Achaïe. De chez vous, en effet, la parole du Seigneur a retenti non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. Il ajoute que ces Thessaloniciens se sont détournés des idoles pour servir le Dieu vivant et véritable et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous arrache à la colère qui vient. Déjà, une première notation eschatologique, puisque c'est la colère qui vient, ça nous renvoie, déjà, c'est implicite, là, c'est pas encore mentionné tel quel, ça le sera plus loin dans la première et dans la deuxième aux Thessaloniciens, mais implicitement, c'est déjà une première référence au jour du Seigneur. Vous savez, cette expression très forte du jour du Seigneur, que l'on trouve bien sûr dans l'Évangile, mais que l'on trouve déjà aussi dans l'Ancien Testament, parce que le jour du Seigneur, c'est la consommation des siècles, c'est la venue du Seigneur, la seconde venue du Seigneur, la venue dans la gloire et le jugement du monde. Voilà. Donc c'est la seconde venue, c'est la colère, autrement dit le jugement qui vient, deux thèmes eschatologiques que nous allons retrouver dans nos deux épîtres aux Thessaloniciens, parce que l'enseignement eschatologique qui est fait, vous allez voir comment, nous allons voir comment, au fur et à mesure des leçons de ce premier semestre, qui est fait dans une perspective pastorale, c'est pas un enseignement purement intellectuel, bon, et doctrinal. Bien sûr, Paul y enseigne la bonne doctrine, puisque cette bonne doctrine procède d'une parole du Seigneur. Bon, mais en même temps, cet enseignement eschatologique que nous trouvons dans nos deux épîtres aux Thessaloniciens est inséré dans une perspective pastorale. Et on va voir pourquoi. Alors, l'apôtre est préoccupé, bien sûr, et on le serait à moins, puisqu'il a dû quitter ses chers Thessaloniciens un peu vite. Et il dit qu'il voudrait bien qu'il lui soit donné, à lui, mais aussi à ses compagnons, qu'il lui soit donné de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. Parce que, bien que, je le répète, le séjour, on le constate à plusieurs indices en lisant attentivement nos deux épîtres, le séjour a été plus long que le sentiment qu'on peut tirer de la lecture du livre des Actes, mais quand même, Paul avait beaucoup d'autres choses à dire à cette jeune chrétienté, il avait encore à l'enseigner pour la faire grandir dans la foi, mais malheureusement, il n'en a pas eu le temps, donc il est habité par le désir de les revoir pour compléter ce qui manque à leur foi, c'est-à-dire à celle des Thessaloniciens, mais il est ajouté « Satan nous en a empêchés ». 1 Thessaloniciens 2, 18b. Cette mention de Satan n'est pas jetée au hasard dans l'Épître, parce que à cette mention de Satan est attaché un peu plus loin ce qui est appelé le mystère d'iniquité. Mystère d'iniquité. Et l'apôtre va revenir dans son enseignement eschatologique, va revenir également sur ce mystère d'iniquité et sa signification. Alors, on sait que Paul arrive à Athènes, que n'y tenant plus, ça c'est les actes, c'est la première aux Thessaloniciens qui nous dit, n'y tenant plus, il envoie Timothée, notre frère, le collaborateur de Dieu, le collaborateur de Dieu. Ça, c'est intéressant, parce que bon nombre de Bibles en français ne restituent pas le terme de collaborateur de Dieu. Par exemple, celle que j'ai sous les yeux dit « C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, ils sont plusieurs, parce que sinon il aurait dit me décidant à rester seul à Athènes. Quand il parle de lui simplement, il parle de la première personne du singulier. Nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile du Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Il faudrait traduire, nous envoyâmes Timothée, notre frère, le collaborateur de Dieu dans l'évangile du Christ. C'est ce que dit le texte grec. Et non pas simplement le ministre de Jésus-Christ, ce que Timothée est bien sûr également. Alors, c'est Timothée, du coup, qui est réenvoyé à Thessalonique pour affermir et encourager les frères dans la foi. Et on sait que la mission de Paul à Athènes se traduit par un échec et que Paul va partir vers Corinthe, la ville de Corinthe, où il va rester environ 18 mois, entre 18 mois et 2 ans. Et c'est de Corinthe qu'il va envoyer en l'an 50 et quelques mois après, début 51 ou mi-51, dans cet ordre d'idées-là, les deux épîtres, la première et la deuxième aux Thessaloniciens. C'est à Corinthe qu'il va retrouver Timothée, qui est porteur de bonnes nouvelles, ce qui réjouit l'apôtre et qui fait que l'apôtre va rendre grâce. Vous voyez, sa joie à l'apôtre, ça c'est très caractéristique dans tous les écrits pauliniens. Je fais un petit excursus à propos des écrits pauliniens, puisque aujourd'hui la critique biblique prétend qu'il y a 7 épîtres authentiques et appelle les autres deutéro-pauliniens. Bon, comme souvent ce que la critique énonce dans ces domaines-là, ça n'emporte absolument pas la décision, parce qu'il y a des hypothèses, mais bon. La tradition, elle, a toujours attribué ces épîtres à saint Paul. Et comme je l'ai dit depuis que nous avons commencé le centre de Mitrus Telenoe, c'est-à-dire au mois de novembre 2011, en ce qui me concerne, entre la tradition et la critique moderne, le choix qui est à faire, pour moi, passe en faveur de la tradition et non pas en faveur de la critique moderne. Non pas qu'il faille avoir une attitude a priori de rejeter tout ce que donne la critique moderne, bon, mais lorsqu'elle entre en conflit avec la tradition, en ce qui me concerne, je choisis la tradition. On n'est pas obligé de me suivre, mais en tout cas, je vous donne ma propre perspective, et c'est dans cette perspective que je travaille mes cours d'écriture sainte, et que j'interprète l'écriture sainte, c'est-à-dire dans la tradition des pères, d'une manière créatrice. Hein, je disais hier que le centre Dumitrus Taniloé, à l'image du père Dumitrus Taniloé, s'insère dans la tradition des pères, mais d'une manière vivante et créatrice. Mais ce choix pour la tradition patristique, il est clairement l'un de nos piliers à ce centre, et c'est clairement une clé de lecture de la sainte parole de Dieu. Je rappelle d'ailleurs, c'est saint Basile qui le dit, que on ne peut pas séparer l'écriture de la tradition orale, donc celle qui porte l'évangile par le Saint-Esprit et la tradition des pères jusqu'à nous, hein, dans l'Église jusqu'à nous, et on ne peut pas négliger cette tradition orale à côté de la tradition écrite, une tradition avec un versant écrit et un versant oral, l'écriture étant la norme de la tradition, puisque la tradition orale ne peut jamais entrer en conflit avec la tradition écrite, mais la tradition orale a toute sa place. Et saint Basile le Grand dit d'ailleurs, parce que même de son temps il y avait des gens qui la négligeait, cette tradition orale, et il dit, mot pour mot, « Si vous négligez la tradition orale, eh bien, vous portez atteinte à l'Évangile lui-même. » Donc, c'est on ne peut plus clair. Alors, Paul est à Corinthe, et il reçoit donc Timothée du retour de Thessalonique avec des bonnes nouvelles, et il est réconforté parce qu'il sait que les Thessaloniciens tiennent bon dans les tribulations. Et c'est intéressant parce que il est dit dans la première épître, justement, à propos de ces tribulations, qu'il loue les Thessaloniciens qui ont, je cite, « ont imité les églises de Dieu qui sont en Judée, dans le Christ Jésus, puisque vous aussi vous avez souffert de vos propres compatriotes, donc des Grecs, et qu'elles, les églises de Judée, ont souffert de la part des Juifs. » 1 Thessaloniciens 2,14. Et il sait qu'ils tiennent bon dans le Seigneur, chapitre 3, verset 8b, et donc de là, il leur envoie ces deux épîtres qui reprennent, je répète ce que j'ai dit au début, qui reprennent par écrit des thèmes, en les approfondissant, certes, mais qui reprennent des thèmes par écrit qui ont été annoncés, prêchés oralement. Ce que je vous ai déjà dit oralement. il le dit explicitement dans les écrits. Donc, évidemment, les écrits en question vont avoir une grande résonance parce qu'ils reprennent, ils réactualisent la prédication orale de l'apôtre en approfondissant toutefois certains points. Donc, dans notre Nouveau Testament, ces deux épîtres, elles sont très courtes, hein, puisque à elles deux, elles font, je vais vous le dire, elles font 8 chapitres. 8 chapitres. Donc, c'est sans comparaison avec les grandes épîtres doctrinales comme l'épître aux Romains, qui est un monument qui n'est pas enfin, qui est très, très conséquent, qui est très conséquent. Là, ce sont deux petites épîtres, 8 chapitres à L2, mais qui contiennent un enseignement tout à fait essentiel, un enseignement doctrinal très important, un enseignement sur l'eschatologie. Alors, il y a 3 épîtres qui sont plus spécifiquement destinés aux Macédoniens, les 2 aux Thessaloniciens et l'épître aux Philippiens. Mais l'enseignement eschatologique, lui, malgré le fait que ces épîtres sont courtes, l'enseignement eschatologique, il est tout à fait fondamental et tout à fait décisif. C'est même le cœur de ces 2 épîtres. C'est l'eschatologie qui est le cœur de ces 2 épîtres aux Thessaloniciens, cet enseignement eschatologique qui, encore une fois, est enchâssé dans une perspective pastorale. Et on verra pourquoi. Et cet enseignement eschatologique de saint Paul, eh bien, il prend place à côté de celui que nous trouvons dans les évangiles synoptiques, dans l'évangile de Jean, et dans l'Apocalypse. Nous ferons des passerelles sans arrêt en étudiant donc ces épîtres de saint Paul, les 2 aux Thessaloniciens, la première aux Corinthiens et les 2 à Timothée. Eh bien, nous verrons des passerelles entre cet enseignement paulinien et l'enseignement des autres apôtres. Il y a une dernière chose, et j'en termine là pour ce soir, qu'il faut, avant d'attaquer le corps proprement dit de cet enseignement eschatologique paulinien, il faut remarquer qu'il n'y a pas d'évolution dans cet enseignement. C'est-à-dire que dans les épîtres ultérieurs, chronologiquement parlant, où ils figurent, eh bien, nous trouvons le même enseignement. Preuve s'il en était besoin, parce que la pensée humaine, par nature, elle est changeante. Elle s'enrichit ou elle s'appauvrit, mais elle est changeante. Alors que cet enseignement reste d'une épître à l'autre, enfin, en tout cas dans les épîtres où il figure, il reste né varietur, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il procède d'une parole du Seigneur. Et ça, l'apôtre nous le dit très clairement dans la première aux Thessaloniciens. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui, donc nous verrons quelles sont, la prochaine fois, quelles sont les caractéristiques de cet enseignement eschatologique, à quelles questions l'apôtre répond, questions qui ont été ramenées par Timothée lors de son 2e séjour dans la capitale macédonienne. Et nous verrons également, nous mettrons en parallèle le récit du chapitre 4 et celui du chapitre 5, avec ce qu'il y a dans la deuxième épître et tout l'enseignement que Paul donne sur les événements qui doivent précéder la venue du Christ. Parce que vous savez que les chrétiens de la première génération se pensaient que le Christ allait revenir très rapidement. Et donc, l'apôtre va tempérer ce sentiment et les questions qui sont subséquentes à ce sentiment, c'est-à-dire quel est au dernier jour, au jour du Seigneur, quel est le statut des morts? Est-ce que ceux qui se sont endormis, comme dit la première épître, participeront-ils avec ceux qui sont restés ensemble à la venue du Seigneur, qui sera premier et qui sera second? Enfin bon, on étudiera les questions que posent les Thessaloniciens. Et Paul tempère justement, dit mais on n'est pas renseigné sur le jour du Seigneur, parce que d'abord c'est le secret de Dieu, et deuxièmement, et ça c'est l'intérêt de l'enseignement de la deuxième épître aux Thessaloniciens, cette venue dont nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, tant il est vrai qu'elle viendra soudainement, à la manière des douleurs qui prend une femme enceinte près de sa délivrance, c'est quelque chose de soudain, eh bien, non seulement il y a la soudaineté, mais ça doit être précédé, nous dit-il, par des événements annonciateurs de la venue du jour du Seigneur. Et donc, vous allez voir que, malgré la petite taille de ces épîtres, eh bien, on a un enseignement eschatologique de première importance et qui rejoint aussi les mêmes enseignements qui nous sont donnés dans les synoptiques et dans l'Apocalypse. Voilà, donc ça sera pour le prochain cours. Merci de votre attention. Alors, je rappelle également au plan des méthodes de travail que le cours en lui-même n'est pas suffisant. Bon, il faut travailler le cours, hein, bien sûr, il faut prendre des notes. Puisque les cours sont enregistrés, vous pouvez les écouter une première fois, les reprendre, prendre des notes. Mais il y a une bibliographie qui accompagne ces cours, et cette bibliographie doit être étudiée, doit donner lieu à des fiches de lecture, des fiches de synthèse, et tout ça va vous servir pour la suite, et notamment pour ultérieurement les devoirs d'évaluation ou les oraux d'évaluation. Il y en aura un à la fin du premier semestre et il y en aura un à la fin du deuxième semestre, ainsi qu'un examen écrit. Donc tout ça va vous servir. Donc je vous rappelle que ces études sont exigeantes parce qu'il y a pas mal de matière à étudier et qu'il faut y consacrer le temps nécessaire. Alors bon, c'est à vous, en accord avec vos professeurs, d'organiser votre travail en tenant compte des différentes obligations qui sont les vôtres, mais c'est un travail qui doit être marqué du sceau de la régularité. Sans cette régularité, on ne parvient à rien. Voilà, merci de votre attention et à la prochaine fois.